Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire deux lectures. La première dans le prophète Habacuc. Il aurait fallu lire tout le livre pour voir cet homme, comment il a vécu son ministère, ce qu'il a vécu avec Dieu, comment Dieu lui a parlé et comment il s'est adressé à Dieu. Regardez donc Habacuc chapitre 3, verset 1er. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le monde des complaintes. Voilà, c'est un cantique dont mettre en musique. En tous les cas, merci encore pour le plaisir que nous avons de participer à la chorale. Quelqu'un me disait, Monsieur Go, je le dis parce qu'il faut le dire, quelqu'un me disait, maintenant j'ai compris, quand on a écouté un cantique spirituel, on n'a pas envie d'applaudir, on a envie de se recueillir. Quelqu'un qui a fond dans la musique, qui a été interpellé justement en écoutant un chant comme celui que vous venez de chanter, il a dit, j'ai compris, quand on est dans la présence de Dieu, on n'a pas envie de se divertir, on a envie de louer et de se recueillir. C'est bien de comprendre ces choses. Habacuc chapitre 3, verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Amen. Est-ce que ça pourrait être votre prière, ça? Est-ce que ça pourrait être votre prière? Eh bien oui, eh bien oui. Seigneur, souviens-toi de tes compassions dans le cours des années, manifeste-la. Gardez la page, nous allons lire dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, au verset 20, chapitre 9, verset 20, il est parlé de ce que l'on voit dans l'Ancien Testament, des hommes qui sont comparés à des vases et qui s'autorisent à contester avec le potier. Vous savez, ce n'est pas nouveau, les gens qui contestent avec Dieu. Est-ce qu'il y en a encore des gens qui contestent avec Dieu? Quel aveuglement, quelle folie, quelle misère, quelle ignorance. Romains chapitre 9, verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Amen. Ce texte nous parle des vases de colère et des vases de miséricorde. Dieu, dans sa souveraineté, c'est le vase que vous choisirez d'être. Lui, il a déjà choisi. Dieu veut que vous soyez un vase de gloire. Si vous lisez Romains au chapitre 2, il est parlé de ces vases de colère qui s'amassent un trésor de colère. Quelle sorte de vase êtes-vous? Êtes-vous un vase de miséricorde? Est-ce que vous vous approchez du trône de la grâce pour recevoir cette miséricorde? Est-ce que vous vous rendez compte qu'autour de nous, nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui se préparent à recevoir la colère de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu de la miséricorde de Dieu? Le Seigneur Jésus est venu pour exercer sa miséricorde. Cet après-midi, n'importe qui sur la terre, quel que soit son état, peut obtenir la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de la bénédiction? La porte est ouverte. Dieu est-il miséricordieux? Oui, Dieu est-il bon? Oui, qu'est-ce que Dieu veut? Vous sauver, vous fortifier. Habacuc a reçu la révélation de Dieu. Il sait que les choses vont tourner mal. Le peuple de Dieu n'a pas voulu sa grâce, n'a pas voulu sa miséricorde. Et il voit que la colère de Dieu va venir sur le peuple de Dieu. Et nous qui sommes des vases, nous n'avons pas à contester avec Dieu. Ce qui caractérise quelqu'un qui est véritablement passé par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance, c'est qu'il a décidé de ne pas pouvoir contester avec Dieu. Quand vous connaissez Dieu, il ne vous est pas possible. Ça peut vous arriver dans une épreuve de dire « je ne comprends pas, pourquoi ?» Mais ce n'est pas dans un esprit de contestation, c'est dans un esprit de d'inquiétude. J'aimerais savoir pourquoi, vous voyez, c'est normal que l'on veuille savoir. Pierre s'est entendu dire « écoute, ce que tu ne comprends pas maintenant, maintenant, tu le comprendras plus tard. Ce n'est pas du tout un péché, et ce n'est pas une grosse affaire de ne pas comprendre. Mais il y a des pourquoi qui sont le résultat d'une véritable contestation. Et ça, ce n'est pas bon signe, on s'endurcit, et ça se passera mal le jour où on va passer devant le Seigneur. Oui, Dieu veut que nous soyons des vases de miséricorde. C'est un choix que nous faisons lorsque nous sommes sur le tour de sa parole, comme ce matin, comme cet après-midi. Nous sommes là devant Dieu, nous sommes comme ce vase qui est sur le tour du potier. Ses mains peuvent se poser sur nous, parce que les mains du potier ne peuvent se poser sur un vase que lorsque le vase est sur le tour. Et c'est ce qui se passe lorsque vous lisez votre Bible, sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous lisez votre Bible, le cœur ouvert, voilà, merci. Un vase de miséricorde formé pour la gloire de Dieu. J'aimerais quand même qu'on revienne dans les Romains, parce que nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est l'homme qui choisit la sorte de vase qu'il veut être. J'ai été, moi, marqué par l'Épître aux Romains. Je ne sais pas si vous, il y a un livre qui vous a marqué plus que d'autres. Dans Romains, au chapitre 2, il parle de ces hommes qui ont choisi. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, dit la Bible. Romains chapitre 2, et là encore une fois de plus, le Seigneur parle de la miséricorde, de la gloire, de l'honneur pour ceux qui ont choisi la miséricorde, et Dieu parle de la colère qui vient. Regardez, verset 4, Romains chapitre 2. « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Donc quand vous mettez tous les qualificatifs qui sont liés à la miséricorde et tous les qualificatifs qui sont liés à la colère, vous avez envie de faire un choix, croyez-moi. Il y a la gloire, l'honneur, la paix, l'immortalité, le bonheur, pour tous ceux qui choisissent justement de faire la volonté de Dieu. La colère de Dieu, elle vient. Vous avez qu'à regarder les informations. Il y a des chaînes qui résument parfois à un quart d'heure les informations de la semaine. Vous avez vite fait de voir que la colère de Dieu vient. C'est écrit. Est-ce qu'on peut échapper à la colère de Dieu? C'est écrit dans l'Apocalypse. Le jour de la colère est venu. Qui pourra subsister? Eh bien, seront épargnés de la colère tous ceux qui seront passés sous la croix, par la croix, sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, une chose certaine, qui subsistera? Tous ceux qui seront passés par la croix. Des fois, on me dit, mais c'est les pentecôtistes qui sont sauvés. Vous savez, les gens, des fois, ils résument, ils simplifient vite, mais ce n'est pas les pentecôtistes qui sont sauvés. Ce sont, parce que dans l'église de Pentecôte, il y a des chrétiens qui ne sont pas convertis, il y a des chrétiens qui sont là, qui suivent par superstition, seront épargnés de la colère tous ceux qui auront été baptisés en Christ. On parlait du baptême hier, du baptême d'eau. Mais la Bible parle du baptême en Christ, c'est-à-dire un baptême en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le baptême d'eau, mais qui n'ont pas été immergés dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas passés par la repentance et par la conversion. Donc, ces textes que l'on vient de lire sont clairs, que ce soit Romains, le chapitre 9, le chapitre 2, que ce soit le prophète Habacuc, on voit qu'il y a ceux qui se soumettent à la souveraine Dieu, à la souveraineté de Dieu, et on voit ceux qui contestent. Dans Ésaïe, on le voit, et ils contestent avec le Créateur, ils sont là. Et pourquoi Dieu fait ci, et pourquoi Dieu fait ça, etc. C'est terrible de voir que le peuple de Dieu peut en arriver à s'autoriser. Cela, c'est un manque de respect. Oui, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu. Notre société est vraiment malade. Notre monde est malade. Vous regardez les informations parfois? Est-ce que ça vous arrive? Ça fait pitié, vous ne trouvez pas? Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive. Et tout ça n'est que le résultat de ce qu'on n'a pas voulu, la grâce de Dieu. Dieu, petit à petit, retire sa miséricorde, retire sa main. On ne veut pas de Dieu. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Bon, dans quelques jours, à Noël, on va faire semblant. Les gens, des millions de gens vont faire semblant de l'avoir comme sauveur. Mais en vérité, dès que Jésus nous parle de la croix, ça y est, on n'en veut plus. Donc Dieu retire sa main. Et bien sûr, c'est l'inverse qui se passe. C'est la colère de Dieu qui vient. Alors, on voit de plus en plus de choses terribles. Vous avez vu ces problèmes de meurtre, bien souvent, quand les gens sont questionnés, on dit, mais voilà, il faisait du spiritisme, hein, là, de la sorcellerie. Alors les médias, parfois, ils rient, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont ouvert la porte aux ténèbres. On rit de ces choses. Mais quand on voit les résultats et les conséquences de tous ceux qui pratiquent les sciences occultes, il ne faut pas s'étonner que les gens soient devenus complètement fous. Oui, le Seigneur nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et même s'il y a les machinations du diable, s'il y a les ruses du diable, s'il y a tout ce qui se passe, les chrétiens, comme Habacuc va le faire, peuvent se décider à surmonter le mal par le bien. Amen. Vous êtes d'accord? Tout va mal, tout va très mal, tout va aller de plus en plus mal, mais à un moment donné, les croyants ne tombent pas dans la résignation, dans la fatalité. Ben c'est comme ça, ça va faire en empirant. Alors ben il faut se protéger. Et on verra bien comment ça se passera. Non, le chrétien il n'est pas fataliste. Le chrétien il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le chrétien il peut, comme le prophète Habacuc, dire bon c'est vrai, on sait que la colère vient, mais Seigneur, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Pour nos familles, souviens-toi de ta compassion, pour notre nation, pour notre ville. Oui, dans le cours des années, accomplis ton œuvre. Comment allez-vous prier après cette prédication? Allez-vous prier avec davantage de ferveur? Ou allez juste vous prier pour vos besoins? Parce que ça, prier pour les besoins, en principe, on n'a pas besoin d'être encouragé à le faire. Vous le faites, hein, de prier pour vos besoins? Est-ce que vous priez, Seigneur, et bénis-moi, tu vois au travail, il y a une promotion qui se présente. Seigneur, je voudrais bien passer entre les mailles. Hein? Seigneur, tu vois, tu bénis le juste. Allez, bon, j'exagère un peu. Mais enfin, pour les besoins, normalement, il n'y a pas de difficulté à s'approcher de Dieu pour faire connaître ses besoins. Oui, hein? On le fait naturellement. Est-ce que c'est normal? Oui, en même temps, c'est normal. Mais ça, c'est dommage si notre communion avec Dieu se résume au seul fait de s'approcher de lui pour lui faire connaître les besoins. Il faut, comme on vient de le lire dans le prophète Habacuc, s'intéresser au salut des autres, s'intéresser aux églises. Est-ce que vous aimeriez que toutes les églises de Toulouse soient bouillantes et ferventes? Eh oui, vous vous rendez compte, ça ne changerait pas les choses. Si toutes les églises de Toulouse étaient remplies chaque mardi soir à l'heure de la prière, vous ne croyez pas que ça changerait les choses? Est-ce que vous y pensez parfois? Seigneur, remplis les églises à l'heure de la prière, d'hommes et de femmes qui chercheront le baptême du Saint-Esprit, qui chercheront à faire descendre ta faveur sur l'Église. Habacuc sait, il est informé. Quand vous lisez ce livre, vous dites, oula, ça va vraiment aller mal. Mais Habacuc prend la décision de faire une prière qui va changer les choses. Ça s'appelle surmonter le mal par le bien. Accomplis ton œuvre. Dieu a des œuvres. D'ailleurs, nous sommes son ouvrage. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais en même temps, nous les hommes, nous sommes son ouvrage. Donc, en fin de compte, l'ouvrage de Dieu, ce sont les croyants. Les croyants qui rentrent dans un travail de coopération avec Dieu à partir du moment où ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qu'Habacuc a fait, nous pouvons également le faire. Nous ne nous rendons pas compte. Imaginons même dans une église comme la nôtre où on est 400 membres. 400 membres inscrits sur le registre, ça c'est pas important, mais il y a 400 adultes qui fréquentent l'assemblée. Est-ce que vous vous rendez compte si tous les 400 membres que nous sommes, nous nous mettions avec ferveur, avec sainteté, avec consécration, à prier pour le réveil? Déjà le réveil de notre propre église. Vous ne croyez pas que les choses changeraient? Hein? Le faire spontanément, le faire joyeusement. Vous avez vu, au chapitre 3, verset 2, il dit, Seigneur, ranime ton œuvre. Voilà, on le voit, il est saisi de crainte. Mais aussi, quand vous lisez la parole de Dieu pour la première fois, que vous lisez les signes de la fin des temps, que vous lisez les propos de l'apôtre Paul, les prophéties du Seigneur Jésus-Christ, quand vous voyez comment les choses vont se terminer, vous pouvez dire, je suis saisi de crainte, non? Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois où vous avez lu les prophéties de Jésus-Christ dans Matthieu 24 ou Luc 21? Qu'est-ce que vous avez pensé? Comment? Qu'est-ce que vous avez... Bon, mais quand il dit qu'il y aura en divers lieux des tremblements de terre, etc., des soulèvements, des coups d'État, qu'est-ce que vous avez pensé? Oui, mais je veux dire, ça peut provoquer une forme de crainte, je veux dire. C'est pas la peur, mais je veux dire, tiens, tiens. Et c'est vrai. Et vous avez vu ce qu'il dit ? Je suis saisi de crainte. J'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Alors, quand on est confronté à certaines émotions intérieures, on a plusieurs possibilités. Ou alors, eh bien, on se résigne, comme je vous le disais, ben, mais c'est comme ça, ça va aller de plus en plus mal, il n'y a pas de solution, qu'est-ce que vous voulez faire ? Prier, oui, c'est bien joli, mais il n'y a pas que la prière, etc. Et quand vous allez voir comment les choses vont dégénérer, on peut vite tomber dans cette espèce de fatalisme morbide, et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La résignation, ce n'est pas la solution. Il y a des gens, ils se résignent. Vous savez, comme cette veuve-là, qui était en train de ramasser du bois, et qui disait, ben voilà, je ramasse du bois, je vais faire mon dernier repas, et puis je vais mourir. Et l'autre qui disait, on va m'enlever mes enfants. Voilà. Cette résignation. Non, ne vous résignez pas. Le chrétien, il n'est pas résigné. Le chrétien, il surmonte le mal par le bien. Il y a des gens qui sont résignés. Ils sont tout le temps résignés, alors ce n'est pas très encourageant. Peut-être que si vous êtes entouré de chrétiens résignés comme ça, ce n'est pas facile. La deuxième attitude que l'on rencontre de plus en plus, même dans le royaume de Dieu, c'est la plainte. On le voit, même Habacuc au début s'est fait piéger. Regardez au chapitre 1er, au verset 13. On voit la résignation. Je ne vais pas parler du verset 2. Regardez le chapitre 1er. Alors, je suis dans Habacuc, regardez. On peut lire quand même quelques versets pour vous dire que ça peut nous arriver. Trop prophète qu'il était, voyez, regardez au verset 2. Chapitre 1er, verset 2. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas ?» Ça vous rappelle rien ? Hein ?« J'ai crié vers toi à la violence et tu ne me secours pas. » Chapitre 1, verset 13. Hein ? Alors, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le juste dévore celui qui est plus juste que lui ? Voyez, on voit qu'il est exactement dans le processus de ce qu'on a vu dimanche dernier, quand il nous parlait de cet aveuglement quand on voit certains méchants qui prospèrent, etc. Donc il se plaint. Il a eu cette attitude. C'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Mais ses attitudes ne sont pas bonnes. La résignation et la plainte ne changent rien. Vous pouvez vous plaindre tant que vous voudrez, vous pouvez râler tant que vous voudrez, ça ne fera pas avancer les choses. Les chrétiens, c'est vrai, ils font que râler, il faut faire ci, et il faudrait faire ça. Eh bien, faites-le. Mais ne râlez pas, ne vous plaignez pas, ne vous résignez pas. Habacuc va choisir cette troisième voie, qui est la voie de l'intercession. Il va prier pour que Dieu produise un changement. Dieu ravive ton œuvre, ranime ton œuvre. Alors, quelle est votre prière par rapport à l'œuvre de Dieu ? Parce que quand même, vous avez pris le pain et le vin, vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, vous faites partie du corps de Christ, en prenant le baptême, vous vous êtes attaché au chef, à Jésus-Christ, vous êtes entré dans le corps de Christ. Quelle est votre prière pour le royaume de Dieu ? Est-ce que c'est la prière des résignés ? Eh bien, Seigneur, tu le sais, je t'attends, advienne que pourra, on verra bien. Hein. Voilà. Est-ce que c'est votre prière ? Est-ce que c'est votre prière ? La prière du plaintif, c'est la prière du désespéré qui ne voit plus rien. Ça ne va pas du tout. Le peuple de Dieu a autre chose à faire que de faire comme les gens du monde, à se plaindre et à gémir. Seigneur, ranime ton œuvre. Combien d'années nous reste-t-il avant le retour de Jésus ? Bien sûr, on ne sait pas. Mais enfin, on soupçonne que ça s'accélère pas mal quand même. Il nous reste combien de temps ? Deux jours ? Deux semaines ? Deux mois, deux ans, 20 ans, tout à l'heure, oui, tout à l'heure. Vous êtes prêts pour que Jésus revienne tout à l'heure ? Oui, vous êtes prêts, c'est bien. C'est bien. Celui qui intercède, comme Habacuc, verra certaines choses se produire. Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Ça, c'est une prière que vous pouvez faire avec vos mots. Avec votre façon de parler, vous n'allez pas répéter du mot à mot, c'est ridicule. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit le pasteur ? Il faut répéter Habacuc 3.2, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alors on va répéter, allez, on s'y va, allez, on y va. Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions, dans ta colère. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Jésus nous a jamais demandé de réciter des prières. Mais quand vous voyez des informations, cette prière peut venir sur votre cœur. Seigneur, je vois bien que ta colère approche. Souviens-toi de tes compassions. Vous croyez que Dieu, il apprécie quand un de ses enfants lui rappelle ses compassions? Ses compassions, est-ce que ça ne nous parle pas du calvaire? Est-ce que ça ne nous parle pas de Golgotha? Il voit qu'on lui fait confiance. Souviens-toi de tes compassions. Seigneur, c'est vrai que c'est inéluctable. Ça ne peut pas être autrement. Et la colère de Dieu, elle vient. Mais Seigneur, il y a tes compassions. La porte est ouverte. Et tant que Jésus est assis sur le trône de la grâce, il peut, malgré la colère, manifester sa compassion. Le jugement va venir. Ça sera quelque chose de terrible. Si vous avez lu le Nouveau Testament, vous le savez, c'est quelque chose de terrible. Il y aura des pleurs et des grincements de dents pour tous les chrétiens qui auront pris ces choses à la légère. Que de malheur. Vous savez, les 7 textes qui nous parlent des pleurs et des grincements de dents sont des textes avec 7 contextes différents qui s'adressent aux chrétiens qui n'ont pas été sérieux avec Dieu. Dans le talent qu'ils ont reçu, par rapport à la foi qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur, ou par rapport à tout le reste. Ce sont 7 contextes différents, l'hypocrisie, l'iniquité. Et on voit aujourd'hui que dans le royaume de Dieu, il y a des chrétiens qui acceptent l'iniquité, qui acceptent l'hypocrisie, qui acceptent de ne rien faire pour Dieu. L'avant-dernier texte, c'est celui qui avait reçu un talent, il l'a enfoui. Et c'est lui qui s'est entendu dire, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pour ça qu'un chrétien, il doit se dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Et dans cette communion avec Dieu, vous recevrez de sa part ce que vous devez faire pour sa gloire. Donc nous devons être une église de prière. Je reviens à ce que j'ai souvent dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et cet homme, vous voyez, qui a été résigné, vous lirez, vous le verrez. Cet homme qui a passé un moment où il a été résigné, c'était un véritable homme de Dieu. Mais voyez, qui que nous soyons, on peut se faire piéger. Cet homme qui s'est plaint et qui réalise qu'il y a une autre solution. Il réalise que Dieu ne change pas. Il réalise que Dieu est tout puissant. Quand on est conscient que Dieu est puissant et que Dieu ne change pas, ça peut également nous changer. Eh bien, voyez, à la place de se plaindre, il va commencer à se réjouir. Pourtant, la colère de Dieu va venir. Regardez, Habacuc 3, verset 18. Habacuc 3, verset 18. Regardez sa réaction. Et c'est là que l'on voit comment une attitude intelligente de surmonter le mal par le bien change notre état d'esprit. Il se plaint, il gémit, il se résigne, il râle. Et tout d'un coup, parce qu'il va changer sa façon de prier, regardez le verset 18, il réalise qu'il peut affronter toutes ces situations. Voyez, toutefois, c'est la fin de ce livre, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Voyez ? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables, à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous avez vu sa réaction ? La bénédiction ? Il sait que Dieu va lui donner la victoire. Il réagit bien et il entre dans un processus de victoire. C'est ce que l'apôtre Jean dit quand il dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Il comprend. Et c'est pour ça que c'est bien de lire un livre, de bien réfléchir à ce que un homme a dit, et puis comment il réagit une fois qu'une parole de Dieu lui a été donnée. Il savait que Dieu lui donnerait la victoire. Et vous, est-ce que vous croyez que Dieu vous donnera la victoire? Vous en êtes sûr? Est-ce que vous êtes certain que Dieu vous donnera la victoire? Ben oui. Si vous réagissez comme ça, si vous surmontez le mal par le bien, si vous dites, eh bien moi, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Quand on verra ces choses, levez-vous, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la terre, eh bien je vais le faire. Vous voyez, c'est la façon dans le Nouveau Testament de réagir comme Habacuc a réagi dans l'Ancien Testament. Il sait une chose, Habacuc, il a compris que la gloire de Dieu est en jeu, que Dieu, de toute façon, ne peut pas être ridiculisé. Ni vaincu, même les gens se moquent. Si les gens se moquent de Dieu, vous, quand vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendez compte que la victoire, elle appartiendra à Dieu. Et qu'un homme, un chrétien, une église, a le pouvoir de dire oui, je me lèverai, la terre sera remplie de louanges. Regardez Habacuc 2, 14. C'est important de lire. Je ne sais pas si vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament. Vous les lisez? C'est bien. Mais parfois, lisez un chapitre plusieurs fois dans la semaine et vous verrez cette progression qu'il y a, cette réaction. Regardez le changement. Habacuc 2, 14. Il est conscient de certaines choses. Dieu lui parle et regardez. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Vous voyez, il sait. Il sait, ses yeux commencent à s'ouvrir. Il a une vision et il reçoit une parole d'encouragement. Regardez un petit peu plus loin, Habacuc 2:2. Regardez. Ça, c'est important aussi. Regardez ce verset. Je pense que ça va faire du bien à quelqu'un à l'instant. Habacuc 2, chapitre 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Voyez, voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et quand vous écoutez cet homme parler, vous vous rendez compte que petit à petit, il va surmonter le mal par le bien. Il se rend compte que Dieu ne peut pas être vaincu, que Dieu ne peut pas perdre, que Dieu amènera sa victoire. Mais ça passe, comme je l'ai dit en introduction, par des vases d'honneur. Nous devons choisir d'être des vases de miséricorde. Nous devons choisir d'être des vases de compassion. Nous devons choisir d'être des vases d'honneur. Seigneur, mon vase, il est peut-être brisé. Mon vase, il n'est peut-être pas terminé. Comme un potier qui a commencé un vase, mais qui n'a pas pu le finir. Certains se sont séparés du tour. Il y a des chrétiens qui ont permis à Dieu de commencer une œuvre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pendant 10 ans. Le vase s'est formé. La gloire de Dieu pouvait commencer à le remplir. Mais voilà, certains se sont exclus. Voilà. Comme un travail qui n'a jamais été terminé. Moi, je me rappelle, il y a à peu près, sans exagérer, 23 ans, j'ai commencé un tableau à la peinture à l'huile. J'ai commencé un tableau à la peinture à l'huile. Il est bien, mais le problème, c'est qu'il n'est pas terminé. Ça fait que 23 ans. Et voyez, il y a des chrétiens, c'est pareil. Dieu a commencé une œuvre en eux, mais ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que les mains du potier n'ont pas pu se poser sur le vase. Alors que Dieu fasse, que nous réagissons bien, que nous disions, Seigneur, fais de moi ce vase d'honneur. Fais ce vase de miséricorde. C'est pas Dieu. Dieu l'a déjà choisi. Ne faites pas comme un jour cette femme à qui me disait, eh ben, si Dieu veut que j'aille au ciel, ou que Dieu, eh ben, qu'il choisisse. Mais je dis, non. Il l'a choisi. Si Jésus est mort sur le bois de la croix, il a choisi pour que vous alliez au ciel. Vous le comprenez bien. C'est d'un ridicule pas possible de dire c'est à lui de choisir pour moi. Dieu a déjà choisi. En mourant au calvaire, en Jésus-Christ, il a choisi de vous donner la gloire et la miséricorde. Oui, le juste, Il marche par la foi. Vous voyez, il était dans la plainte, il était dans la résignation, et tout d'un coup, cet homme, il dit, mais voilà, Dieu ne peut pas perdre. Même si la colère arrive, tout ça est sous le contrôle de Dieu. Oui, Habacuc a bien réagi. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons réagir bien, pas parce qu'on va à l'église. Parce que comme je le disais ce matin, quand on va à l'église, c'est pas pour être en contact avec un pasteur ou être en contact avec une dénomination. Quand on va à l'église, on va dans la maison de Dieu pour être en contact avec Jésus-Christ. La parole de Dieu doit nous mettre en contact avec Jésus-Christ. Notre seule préoccupation, elle est là, connaître davantage le Seigneur. Et malgré le fait que c'était un prophète, c'est quand il a entendu, il a été saisi de crainte, il a dit, mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer, malgré le prophète que je suis, à me résigner, à me plaindre, à réagir mal. Je vais surmonter le mal par le bien. Je serai un vase de miséricorde dont j'amènerai la miséricorde. Je serai un vase de compassion dont j'apporterai de la compassion. Vous ne croyez pas que les gens du dehors, ils ont besoin de compassion? On ne sait pas comment les aider. Il y a des gens, ils sont tellement mal, ils sont comme des anguilles, vous ne savez pas comment les attraper. C'est pas vrai? Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous aider. C'est pour ça que je vous le répète, ne partez pas sans un calendrier, sans un évangile, sans un Nouveau Testament, parce que c'est comme ça qu'on peut aider quelqu'un, à lui communiquer la compassion. Vous ne croyez pas que donner un évangile, ça peut donner la compassion à quelqu'un? Eh oui, voyez? Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça se fait quand on dit, maintenant, j'ai compris, oui, ta colère, elle vient, mais Seigneur, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alléluia. Voilà, choisissez le vase comme vous choisissez quand vous achetez. Ça vous est déjà arrivé d'acheter un vase? Oui? Non? Ça vous est déjà arrivé? Il y en a à tous les prix. Hein. Il y a des vases à 2 euros, il y a des vases à 10 euros, il y a des vases à 20 euros. Hier, j'ai appris, en regardant les informations, qu'il y avait une bouteille de vin qui avait été vendue 227 000 euros. Je ne sais pas si vous avez vu les infos hier soir. Vous n'avez pas vu? Une bouteille de vin, 227 000 euros. n'avez pas intérêt à renverser le verre, je vous le dis. Vous vous rendez compte? Mais c'est ridicule. Non, mais ça, on est dans le ridicule. Mais est-ce que vous savez la valeur qu'a un chrétien? Vous savez ce que Jésus a dit? À quoi ça servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et là, on n'est plus dans les 227 000 euros la bouteille. On est dans une valeur infinie. Parce qu'une bouteille de vin, je pense que c'est périssable. Mais une âme est éternelle. Et si les hommes sont capables d'absurdités pareilles, nous savons que Dieu, lui, quand il nous parle, nous montre l'éternité, les choses essentielles. Et là, vous avez plus de valeur que cette bouteille de vin. Votre prix est inestimable. Votre vie est inestimable. Alors rendez-vous compte si dans ce vase que vous êtes, vous dites au Seigneur, eh bien moi aussi, je vais surmonter le mal par le bien, dans ta colère, Seigneur, souviens-toi de tes compassions. Et cette prière, elle plaira au Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour l'enseignement de ta parole. Tu sais combien de fois, comme Habacuc, nous nous sommes fait piéger par la plainte ou par la résignation. Pardon, Seigneur. Nous voulons, puisque nous aussi nous avons entendu ta parole, puisque nous aussi nous savons que ta colère vient, mais que ton cœur est rempli d'amour, ton cœur est rempli de compassion, tant que la porte est ouverte, alors enseigne-nous à chacun, quoi que ce soit que nous verrons, quoi que ce soit que nous traverserons, à surmonter le mal par le bien. Seigneur, vraiment, c'est notre prière. Donne-nous cette grâce de croire que nous pouvons, malgré le jugement qui vient, malgré ta colère qui approche, nous réjouir en l'Éternel. Oui, rends nos pieds semblables à ceux des biches. Fais-nous monter sur le rocher, sur ces lieux élevés où ta présence nous consolera. Oui, Seigneur, nous croyons que tu as donné des prophéties, des promesses, et si elles tardent, nous voulons les attendre. Tu vois ceux qui ont reçu des promesses, tu vois ceux qui ont reçu une prophétie, ceux qui ont reçu une parole qui vient de toi. Donne-leur cette grâce d'attendre, de persévérer, de surmonter le mal par le bien, afin que chacune des promesses que tu nous as adressées s'accomplisse pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen.